Est-ce que ceci va marcher? Non. Pourquoi on a changé? Voilà, parfait. Alors, bonjour. On arrive dans la journée. Donc je suis Nicolas Aubin, je suis maître de conférence à Sorbonne Université et je suis chercheur dans l'équipe analyse synthèse des sons ici à l'IRCAM, qui est, comme l'a rappelé Géraldine, un beau modèle français d'intégration de la recherche scientifique et de la création artistique. Et je suis l'auteur de cette journée, de cette proposition Fast Forward. Imaginez le futur du son, alors vaste programme. Et pour répondre à cette question ou à ce défi, je vous ai préparé un programme avec des intervenants, de magnifiques intervenants qui sont parmi les plus reconnus en France sur ces questions, que ce soit aussi bien dans la recherche, dans l'innovation ou dans la création elle-même. Voilà. Une info peut-être... Alors oui, je voulais dire un mot là-dessus. Fast forward, avance rapide, journée d'accélération, tout va vite, tout va vite. Aujourd'hui, on va essayer d'aller, de prendre le temps, on va faire une pause justement pour penser, poser toutes ces questions, ces fondements pour imaginer ce son de demain, de l'avenir. Voilà, donc je vous invite à ralentir un petit peu avec moi. Et on a pris du retard d'ailleurs sur le temps du programme, donc on est parfaitement dans la ligne. Et si ça veut bien... bouger ou pas. Oups. Ah, hop, hop. Voilà. Une petite info pratique qui va plaire à tout le monde, l'accès Wi-Fi. IRCAM-public en minuscule, c'est un petit i. Mais vous devez le voir normalement dans vos réseaux. Et le mot de passe, voilà, ce n'est pas très surprenant, c'est Stravinsky avec un grand S. Donc voici, et donc on peut continuer. Les remerciements, je suis extrêmement mauvais pour cette phase-là, j'en oublie toujours des gens, donc vous, excusez-moi à l'avance pour ceux que j'oublie, ou levez la main si je vous oublie. Je vais commencer donc par les équipes d'ICAR, pour nous avoir donné l'opportunité d'organiser cette journée aujourd'hui, alors à la fois comment dire, financièrement, mais aussi logistiquement, toutes les facilitateurs et facilitatrices qui nous ont facilité les choses, hein, c'est comme leur nom l'indique. Toutes les personnes à l'IRCAM pour la logistique, donc Brigitte notamment, mais aussi toutes les personnes de la production et de la technique, qui fait qu'on vous accueille aujourd'hui, maintenant, dans cette salle qui est magnifique, et vous allez voir des choses extraordinaires, et tout va bien marcher, comme sur des roulettes, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si j'oublie des gens, mais levez la main. Non, bon, voilà, j'ai oublié personne. Ceci va. Donc, je vais commencer par un peu de contexte. Alors, le but, c'est quand même de passer la parole aux intervenants assez vite, mais je voulais quand même avoir un peu de réflexion autour de cette journée. Alors moi, ça commence à faire un paquet d'années que je suis à l'IRCAM, et alors je ne sais pas si vous reconnaissez ça, ce que c'est, mais si nous sommes tous réunis ici aujourd'hui, c'est pour un intérêt commun, pour un objet qui est le son, un objet particulier. Et par ailleurs, cette journée, qui s'adresse plutôt aux industries culturelles et créatives, avait vocation donc à s'adresser aux professionnels du son en particulier. Et les professionnels du son, par mon expérience professionnelle au cours des ans, ici on a l'habitude de collaborer plutôt avec des musiciens, des artistes qui font de la musique, mais le cinéma, ça paraît par exemple juste à côté, mais on ne communique pas, ou peu. Et on vit dans des espèces de mondes parallèles, avec le même centre d'intérêt partagé, mais avec des manières de le considérer, même parfois de le qualifier, ou de travailler avec, qui sont totalement différents, souvent. Et c'est dur de vous réunir, parce que vous êtes des professionnels, donc comme le nom l'indique, en général vous êtes occupés, et bien occupés sur d'autres missions. Et donc je suis content de vous avoir en partie ici aujourd'hui pour partie d'entre vous. Donc ce que j'ai représenté ici, c'était ce que j'ai appelé les archipels du son qui nous séparent tous ces métiers du son. Alors j'ai demandé une petite IA générative de me représenter, qu'est-ce que ça lui, comment elle se représentait, ces archipels du son, c'est plutôt pas mal. Voilà. Mais donc voilà, et cette journée, et moi, ce que j'essaie, mon activité depuis presque 20 ans déjà, c'est de créer des passerelles pour justement, ou décloisonner des murs entre ces différents métiers, ces différentes activités du sonore, en particulier sur celle du son au cinéma. Alors je vais reparler un petit peu du son avant de passer au slide suivant. Je ne sais plus ce que c'est. Mais justement, le son, qu'est-ce que c'est ? Alors, j'ai une petite introduction physico-poétique pour le présenter. Pour qu'il y ait un son, il faut qu'il y ait une vibration. Une vibration, c'est un corps en mouvement. Un corps, ça peut être un corps humain, par exemple, donc de la vie. Et ce n'est pas suffisant. Pour que le son puisse exister, il faut qu'il soit perçu. Donc il faut être deux. De l'autre côté de la chaîne, il faut une oreille. Et pas qu'une oreille, d'ailleurs, il faut un autre corps, en l'occurrence. Et un autre corps qui, lui aussi, rentre en vibration. Soit par le tympan, soit éventuellement par conduction osseuse, et aussi par des vibrations corporelles, viscérales, etc. Donc finalement, le sonore, c'est ce qui relie deux corps en mouvement. C'est un échange sensible, sensoriel, pour nous symbolique également. Et ce son, il a d'autres particularités. C'est qu'il est invisible, il est transitoire, aussi vite il est apparu, aussi vite il a disparu, intangible, etc. Mais par contre, il a un pouvoir sur nous, magique peut-être, de nous faire ressentir des émotions et de nous faire vibrer, littéralement, et un pouvoir évocateur. Donc, quand on entend des voix, par exemple, on peut imaginer plein de qualités d'une personne et de manière assez approfondie sur sa personnalité, ses intentions, ses émotions, ses états émotionnels, etc. Donc voilà, le sonore, c'est tout ça. Dans l'histoire... Ah, je ne vais jamais y réussir. Je crois que je vais finir par rester là. Voilà. Peut-être vous le connaissez. Mais donc... L'histoire de l'art, en particulier la musique, pour la première, est cette forme d'art qui a cultivé le son, qui l'a instrumentalisé avec des instruments acoustiques en premier lieu, qui l'a codifié et standardisé. Et ici, on voit un autre exemple qui a pris le relais, c'est le cinéma. Alors, le cinéma, évidemment, c'est d'abord l'image, mais c'est aussi le son. On y reviendra. Et le cinéma, pour le coup, littéralement, au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe, a industrialisé la production de l'art par toutes les machines et du son en particulier. Le cinéma, c'est une machine à artifice ou une machine à émotion. Je ne vais pas rentrer dans les détails trop et de citations. Voilà, et donc on rentre dans les industries culturelles et créatives. Ici, je vais rester avec le truc parce que la petite manette ne fonctionne pas correctement. Vous reconnaissez peut-être Herbie Hancock ici, qui a été avalé littéralement par une machine, des synthétiseurs. Aujourd'hui, l'art du son, que ce soit la musique ou que ce soit le son au cinéma, c'est un art qui est largement industrialisé, donc avec des standardisations, des processus de standardisation, d'optimisation, de moyens de production. Et l'artiste n'est plus seul créateur de son œuvre, mais en fait, il est environné de plein de choses. C'est désormais presque des entreprises, alors plus ou moins grandes. Au cinéma, c'est assez grand. Ça devient un collectif avec tout un ensemble de chaînes de métiers du son. Cet après-midi, on verra certains de professionnels, Cyril Holtz, que je vois dans la salle, etc. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de métiers qui sont impliqués dans la production du son au cinéma, depuis la prise jusqu'au rendu final, qui est celui qu'on entend dans les salles de cinéma. Et évidemment, une création qui est augmentée par les machines. L'IRCAM a été créé, l'occurrence pour ça, pour la musique, dans cette vocation. Donc c'est un art machinique. Et évidemment, ces industries évoluent avec les évolutions techniques et technologiques. Et donc, la question qu'on a envie de se poser aujourd'hui, c'est on est à une nouvelle étape, l'ère de l'IA. Et donc, quel est le devenir ? Quel est ce devenir sonore, s'il est qualitativement différent, ou si c'est juste une évolution, une intensification de ce qui est préexisté auparavant ? C'est les questions qu'on va peut-être se poser aujourd'hui. Alors, deux petites remarques historiques. La première, celle des machinations, la création des machines à outils, donc début du XXe siècle avec le cinéma, etc. Ici, on a un exemple du Vaudeur. C'était d'une certaine forme d'externalisation du corps pour pouvoir dépasser les limitations du corps humain en particulier. C'était l'ère industrielle. Désormais, ou depuis lors, les machines intelligentes et apprenantes, c'est l'étape d'après, c'est le corps et l'esprit. On s'attaque à l'âge de l'information, à la simulation des fonctions cognitives de l'humain, et en particulier de ce qu'on appelle son intelligence. C'est l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et qui est une forme d'externalisation de l'esprit, et qui a un intérêt particulier quand on fait de la création musicale avec de l'IA, ou assistée avec de l'IA par exemple, c'est que ça permet de nous affranchir de contraintes, d'expertise ou de connaissances a priori musicales, et en particulier si on parle de la musique écrite traditionnelle occidentale, qui imposait des contraintes assez fortes pour pouvoir faire de la pratique musicale, qui était la connaissance a priori de la théorie, du solfège, etc. Donc l'IA est une manière de pouvoir nous permettre de nous affranchir de ces limites-là. Est-ce que ça a un intérêt ou pas? On en discutera dans la journée. Un petit paradoxe sur lequel je veux revenir, je ne sais pas si vous connaissez le paradoxe de Moraïev, je ne sais pas, qui était un chercheur roboticien du MIT, et qui avait postulé que dans les années 80, finalement, la simulation des fonctions cognitives, de l'intelligence, du raisonnement, etc., par les machines, était beaucoup plus avancée que ces fonctions sensorimotrices, donc de la robotique. La robotique était très en retard, et pour lui, c'était un paradoxe, parce qu'il semblait que le raisonnement, l'intelligence, était une œuvre, un fonctionnement plus complexe que celui de la robotique pour l'actionnement. Et curieusement, avec l'ère industrielle, on s'était posé la question de, on avait des machines-outils, on s'est dit, on va être environné tout de suite par des robots partout, machin. Vous en avez peut-être vu dans des supermarchés, des robots Nao, des robots Pepper, de la société Aldébaran, Softbank Robotics, etc. Ils sont largement absents encore aujourd'hui. Il n'y a pas de révolution de robotique. Par contre, il y a une révolution qui est celle de l'IA, donc qui a avancé beaucoup plus rapidement, de manière assez contre-intuitive. Et donc, finalement, moi, c'est ce que j'appelle une révolution par le haut, c'est que les métiers qui sont concernés ne sont pas ceux auxquels on pourrait s'attendre, c'est plutôt les métiers qui font appel à des fonctions cognitives importantes, intellectuelles, et en premier lieu, celui de la création, de la créativité. On a vu, depuis les IA génératives en 2023, ChatGPT, etc., sont apparues à Hollywood, des premières grèves, des premières préoccupations justement sur les bouleversements des métiers qui allaient être impactés par ces innovations. L'IA moderne, à chaque fois je pense que je vais faire court, mais je fais long, je m'excuse. L'IA moderne, c'est quoi? Le terme qu'on dit IA aujourd'hui, c'est les réseaux de neurones profonds, tout simplement. Donc là, on a les images, on va dire, des trois pairs fondateurs de cette réactualisation, de cette évolution de l'intelligence artificielle. Et donc, depuis 2015, on observe sur un nombre toujours plus croissant de tâches que les machines dépassent les capacités humaines. Et évidemment, depuis 2022-2023, les grands modèles de langage qui sont utilisés un peu partout aujourd'hui, ChatGPT, etc., pour faire de la génération de contenu textuel, images, sons, vidéos, etc. Et ce qui distingue l'IA moderne, c'est deux choses principalement par rapport à tout ce qui existait avant. C'est la performativité. Ce que j'appelle la performativité, c'est-à-dire un modèle qui est, c'est un modèle qui est basé sur les données. Et des données massives en l'occurrence. Donc là, j'ai mis quelques chiffres, 50 milliards de mots pour ChatGPT, la version d'il y a quelques temps, probablement beaucoup plus, etc. Donc il faut beaucoup de données. Mais avec ces données-là, avec cette quantité de données-là, on arrive à atteindre une qualité de rendu en génération qui dépasse largement tout ce qui était fait précédemment et donc qui offre de nouvelles possibilités. Et le deuxième point de débarcation, c'est la démocratisation. Alors la démocratisation, c'est en deux parties. Celle des outils, donc il y a le partage assez large des algorithmes qui sont librement accessibles. C'est toute la question de l'open source et toutes les questions que ça pose aussi. Et ce partage, il est pas si, cette démocratisation des outils, elle n'est pas si évidente que ça, parce qu'il y a des modèles qui sont tellement gros qu'en fait, on a beau les mettre à disposition de tout le monde, il faut être aussi capable de les faire tourner sur ces machines. Et donc, ça a un prix et tout le monde n'a pas les moyens de cet accès. Et c'est aussi celui des pratiques que j'ai déjà évoquées, c'est-à-dire que ça rend accessible des pratiques qui nécessitaient avant une expertise particulière, par exemple celle du son, de la musique. J'en arrive, voilà, au deuxième partie, les fondements de cette journée. Donc j'ai fait quelques constats et quelques propositions, quelques messages que je voulais faire passer, ou que j'essaie de vous faire passer, et qui vont un peu jalonner en fait, toutes les interventions qui vont avoir lieu aujourd'hui. La première, c'est un constat, quand on développe un outil, on se demande, il faut se poser la question de pourquoi on le fait, par qui il est fait, et pour quelle personne. Donc le par qui, bah, c'est qu'aujourd'hui, donc, les IA qui existent, c'est des solutions technologiques, qui sont certes extrêmement spectaculaires, mais qui sont conçues et promues principalement par uniquement quelques géants de la tech qui sont établis ou émergents. Et pour qui ? Et ben, en général, ça s'adresse, alors c'est la démocratisation ultime, hein, c'est par exemple la pratique créative pour tout le monde, on veut faire de la musique, on veut créer des contenus pour faire des podcasts, etc. Mais ça ne répond pas forcément, donc c'est une espèce d'universalité de l'outil, mais qui ne répond pas forcément à des besoins spécifiques d'une certaine expertise, celui de la musique ou celui du cinéma. L'exemple des grands modèles de langage, donc il est quand même évocateur. Donc ici, on a de la génération à partir de prompts textuels, qui permet, ça c'est la facilité, on peut tout générer à partir de prompts textuels aujourd'hui, que ce soit des images, de la musique, de la vidéo, etc. Donc c'est facile, il suffit de connaître le langage, de maîtriser le langage pour pouvoir accéder à cette génération. Donc c'est ça, cette démocratisation ultime, c'est que finalement on substitue ou on fait la traduction, si je puis dire, de la connaissance experte en langage naturel par le biais de prompts. Donc ça peut être... Donc ça s'adresse à un public large et non expert, forcément, et pas adapté pour des pratiques expertes qui nécessitent une précision de contrôle, souvent, qui n'est pas réduite simplement ou accessible pas simplement par du texte. Un deuxième point de critique sur ces grands modèles, c'est ces modèles monstrueux. Donc, ils sont énormes la plupart du temps, et ils sont monstrueux parce qu'ils sont feignants. Alors je ne sais pas si c'est eux qui sont feignants, mais c'est les concepteurs qui sont feignants. C'est-à-dire qu'on s'est dit, c'est des modèles où on fait émerger de la connaissance à partir des données exclusivement. Donc on se repose uniquement sur l'extraction d'informations des données. Il n'y a plus de connaissances humaines qu'on injecte, ou plus beaucoup. Et si on a suffisamment de données, ben, la courbe d'apprentissage arrivera à l'émergence de ces connaissances-là. Et donc, parce qu'ils sont feignants, ils ont une faible efficacité énergétique, si on compare le rendement. Par exemple, par rapport à celui d'un être humain, ou la quantité de données nécessaires pour l'apprentissage par rapport à un enfant. Et des démos spectaculaires, on les a toutes vues. Mais des difficultés à trouver, alors ça c'est mon opinion personnelle, des difficultés à trouver des usages réels et des modèles économiques soutenables. Et il y a des raisons pour ça. Parce que, eh ben, en l'occurrence, il y a un coût énergétique qui n'est pas négligeable, qui n'est toujours pas négligeable, et qui fait qu'on peine à rendre accessible économiquement et créer des modèles économiques qui permettent donc de créer un écosystème d'innovation technologique autour de ces modèles. Ça, c'est un premier point. Et l'autre point qui a été mentionné récemment donc, par un ancien chercheur de OpenAI, c'est le plafonnement des performances. Donc il y a des courbes hein, d'évolution exponentielle, par exemple des capacités de calcul des machines, etc., qui elles sont toujours en croissance. Mais de l'autre côté, en fait, pour pouvoir abreuver ces modèles, il faut des données. Et malheureusement, ces données, pour ce qui est du texte, par exemple, on a aspiré déjà en 2 ans ou en 3 ans tout ce qui existait de toute l'histoire de l'humanité qui avait été numérisée. Donc on plafonne de ce point de vue-là. Donc par la force des choses, j'ai envie de dire, pas parce qu'on est vertueux, ou en tout cas, ce n'est pas la raison première pour un grand nombre, pour certains acteurs, il va falloir poser la question de l'efficacité de ces apprentissages et donc de leur rendement, et les faire plus efficaces, plus petits, etc. Donc, proposition 1, l'IA ne se résume pas aux grands modèles de langage. Il y a plein de solutions qui sont diverses et variées, alternatives, et donc c'est l'objet de la recherche qui est menée en partie à l'IRCAM, d'être capable d'imaginer tous ces modèles alternatifs à ces grands modèles de langage dont j'ai fait la critique précédemment. L'autre chose, c'est que l'IA, la création ne nécessite pas nécessairement non plus de l'IA, ou de l'IA compliquée, ou de l'IA complexe, etc., pour des pratiques particulières et des besoins artistiques. Donc, quelle IA on voudrait ? C'est encore une proposition, c'est la mienne, on sera libre d'être d'accord ou pas dessus. C'est d'augmenter et stimuler la créativité, une forme d'aide à la création, alors aide, assistante, compagnonnage, etc. Ça, il y a des petites variantes dessus. Des algorithmes légers, peu gourmands en données, et facilement adaptables à des besoins spécifiques, avec des artistes qui ont peu de données en général pour réaliser les tâches qu'ils souhaitent, efficaces énergétiquement, et donc abandonner les modèles qui sont uniquement basés sur les données, et réintégrer la connaissance humaine, qui était les modèles précédemment, la connaissance experte, et faire donc de l'hybride, de l'hybridation de ces deux modèles. Et des algorithmes adoptés aux besoins, et aux besoins de quoi ? Des métiers de la création, des métiers du son, et qui sont variés. Donc il y a de nombreux modèles qui existent alternativement, qui sont opérationnels dans plein de cas qui ne nécessitent pas l'usage de grandes quantités de données, par exemple comme les chaînes de Markov, l'apprentissage par renforcement, des systèmes à règles, etc. Et imaginer aussi de nouvelles interfaces, comment on a accès au son. Le texte, c'est très pauvre, c'est vraiment très pauvre. Et réduire finalement la musique au texte, autant pas faire de musique si on peut la réduire au texte. Ou alors on retourne sur les musiques à programme du 18e ou du 19e siècle et on n'est pas du tout dans cette direction. Donc imaginer des nouvelles interfaces, des nouveaux moyens d'accéder au son et de le manipuler. La proposition numéro 2, c'est celle de décloisonner les modèles existants, donc qui sont habituellement comme ça. On conçoit des outils, on les met sur le marché et on essaye de trouver des utilisateurs dans une chaîne un peu verticale. Et l'exemple des LLM, il est parlant là-dessus, c'est que finalement, les grands modèles de langage, ça marchait pour le texte, c'est très bien. On les a utilisés pour les autres modalités. Ça marche, c'est spectaculaire, donc très bien. On dit on va le déployer pour tout le monde et pour toutes les pratiques, un peu une espèce de couteau suisse à tout faire. Et on impose ces outils sans que nécessairement de l'autre côté, à la fin, le end user en anglais ait réellement un besoin de cet outil-là ou de cette façon, de la manière dont il a été fait. Moi, j'ai toujours l'image dans les jeux d'enfance et on essaye d'enfoncer un rond dans un carré. Si on appuie très fort, on va finir par y arriver, mais si on mettait un carré à la place, ça marcherait mieux. Donc l'idée, c'est de casser un peu ça et de mettre des boucles partout. Alors l'artiste dans la boucle, on peut discuter le terme exact, mais l'idée, c'est d'intégrer, d'avoir une recherche intégrée, où l'artiste est présent dès la conception des algorithmes. Alors j'ai envie de dire, on va dire un peu cocorico quand même, vous êtes à l'IRCAM, l'IRCAM a été fondé avec cette mission-là. À l'origine. On fait cohabiter ensemble des chercheurs, moi je suis un chercheur, des artistes, on essaye de communiquer, c'est pas toujours évident, pour réaliser donc de nouveaux moyens d'expression, de création, etc. C'est un modèle donc, qui a été porté par l'IRCAM, je ne sais pas s'il a été créé, mais en tout cas il est porté depuis longtemps déjà, plus de 40 ans. Il a ses défauts, mais en tout cas c'est un modèle, je pense, qu'il faut soutenir, développer et généraliser. Enfin, et on arrive bientôt à la fin, des faux procès de l'IA peut-être. Alors, vous n'êtes pas encore allé voir ce film parce qu'il sort aujourd'hui. The Brutalist. Alors, il y a beaucoup de polémiques, et plus particulièrement au cinéma. Ça, on pourrait s'interroger pourquoi, plus le cinéma que sur la musique, sur les usages de l'IA. L'IA est littéralement diabolisée. Donc, il y a eu des polémiques sur The Brutalist, il y a eu des polémiques sur d'autres films, on en parlera peut-être cet après-midi, autour de l'acceptabilité. C'est assez curieux, on va critiquer par exemple la voix d'une personne, je crois, dans Brutalis, parce que par IA, on l'a fait parler dans d'autres langues automatiquement. Et que c'est inacceptable parce que ça machinise l'interprétation humaine, les émotions de l'artiste, etc. J'ai l'impression qu'on reproche à l'IA ce qu'on ne se reproche pas à nous-mêmes. Alors, et en particulier, alors c'est ça qui est assez amusant, c'est que dans le cinéma, c'est littéralement la machine à produire des artifices. Tout est fictif, rien n'est vrai. Là, on ne reproche pas à l'interprète de ne pas ressentir les émotions du personnage qu'il joue. On ne lui demande pas non plus, a fortiori, de mourir si son personnage meurt. Okay. Pourquoi reprocherait-on donc à l'IA de rajouter des artifices qui préexistent dans cet art de l'artifice généralisé et industrialisé qu'est le cinéma ? Encore plus loin dans mon propos, c'est finalement nous-mêmes, en fait. À partir du moment où nous sommes devenus des êtres sociaux, nous avons cultivé nos émotions, par exemple, et l'émotion que j'exprime, peut-être devant vous, là, c'est peut-être pas celle que je ressens. On a déjà fait la distinction depuis longtemps. Donc nous sommes déjà artificialisés. Alors pourquoi ? Donc cette question de ce problème d'acceptabilité de l'IA dans les tâches de créativité. Enfin, et j'en arrive à la fin avant d'introduire mon premier intervenant, la touche française. On a de la chance quand même en France, alors moi je suis très peu porté sur ces choses-là, mais on a quand même un écosystème riche de chercheurs, d'innovateurs, d'artistes reconnus en France et reconnus à l'international. J'en ai sélectionné une petite portion d'entre eux pour vous aujourd'hui sur le son. Et donc on a tout intérêt à collaborer ensemble, en fait, à échanger, à se réunir pour inventer et porter des modèles à la française, la French touch si vous voulez, ou l'exception culturelle française. Et donc voilà, pour promouvoir ce modèle d'excellence scientifique. Et j'en termine. Voilà, dans ce sens-là, j'ai eu l'honneur ou le plaisir de porter une tribune qui a fédéré donc, un collectif de scientifiques à l'IRCAM et qui a été co-signé par un grand nombre de personnes à l'IRCAM qui justement décrit, fait un constat de l'état des lieux de la création et de l'impact potentiel de l'IA sur cette création et un appel à la diversité tout simplement, la diversité des écosystèmes, la diversité qui est nécessaire en fait non seulement à l'évolution des écosystèmes mais à leur survie littéralement puisque quand les écosystèmes s'appauvrissent, ils disparaissent et ils meurent. Et quand je parle de diversité, je parle de diversité autant dans les pratiques musicales, là l'IRCAM, un point dans la constellation des musiques qui existent, la musique contemporaine. Il existe plein de musiques différentes. Et donc, il faut cette diversité, elle est bonne pour les écosystèmes. Et la diversité aussi donc, de la recherche, les algorithmes. Donc, ne faisons pas tous de la recherche dans les mêmes directions et proposons des modèles algorithmiques, d'IA, etc., qui sont différents. Ne compions pas la énième version de ChatGPT à la française, à la régionale, à la machin, etc. Inventons de nouveaux modèles. Voilà, je vous remercie. Et je vais appeler mon premier intervenant, Jérôme Nicat.